Mega News, le journal.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur la radio des proximités, la radio Ndenga News. Vous nous recevez à 30 km de Kalemi au village Mwingiji sur Axé Nyunzu et Amtoa sur Axé Kabimba. La présentation, je suis Jérôme Batangé. Voici les titres. Au Tanganyika, plus de 82 000 cas de paludisme ont été enregistrés durant l'année 2022, passé dont 571 décès parmi ces cas. Ces chiffres ont été révélés lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme, ce 28 avril 2023. Et puis, à Lomami, dans les territoires de Kabinda, une paysanne du nom de Mvunzi, de Mvumbi, Jackie, habitant la localité de Kibungi, Lukata serait tué la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 avril par un élément de la police nationale, alors en mission d'arrestation. Enfin, au Nord Kivu, la classe présidentielle de cette province s'est réjouie de la démission du général Jeff Nyaga, commandant la force de l'East Africa Community dans la région, c'est vendredi 28 avril 2023. Merci, bienvenue à tous. Au Tanganyika, plus de 82 000 cas de paludisme ont été enregistrés durant l'année 2022 passée, dont 571 décès parmi ces cas. Ce chiffre a été révélé ce 28 avril lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme qui se célèbre chaque 25 avril, réunissant plusieurs partenaires engagés aux côtés du gouvernement congolais dans la lutte contre cette maladie qui tue plus les enfants de 0 à 5 ans. Le directeur provincial des Prosani USAID, Claude Kasongo, a démontré l'engagement des partenaires et de l'État congolais. Kabizia Morisho, ministre provincial de la Santé au Tanganyika, a réaffirmé une fois l'engagement du gouvernement pour vaincre ce fléau. Il est au micro de Paul Lunga Boniface.
Le paludisme est l'un des fléaux socio-économiques qui préoccupe le monde entier avec une morbidité et mortalité élevée. La vision mondiale d'ici 2030 est celle d'un monde sans paludisme, dont voici les trois piliers principaux, à savoir garantir l'accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement du paludisme. Accélérer les efforts vers l'élimination et l'obtention du statut exempt du paludisme. Faire la surveillance du paludisme une intervention de base. Ceci a conduit à un élan de solidarité mondiale facilitant la mise en œuvre des interventions à haut impact. Ceci exige l'implication active de toutes les parties prenantes à la lutte pour espérer atteindre les objectifs fixés. La situation de ces fléaux demeure préoccupante en République démocratique du Congo, où sa prévalence reste encore élevée. 45% chez les enfants de moins de 5 ans et où la proportion des personnes malades du paludisme par rapport à d'autres infections va grandissant malgré les avancées significatives enregistrées dans la lutte antivectorielle et la voie vers l'élimination empruntée par beaucoup de pays. La province du Tanganyika enregistre au cours de l'année 2022 802 314 cas de palu simple, 44 459 cas de palus graves, dont 32 280 cas de palus traités selon la politique nationale et 547 cas de décès. Nous avons besoin de l'implication de tout un chacun en ce qui concerne pour vaincre ce fléau.
C'était le ministre provincial de la Santé dans les Tanganyika. À Kalemi, les services de protection civile, la province de Tanganyika a organisé avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations une session de formation de 2 jours, soit du 27 au 28 avril courant, sur la restitution du système d'alerte précoce installé dans 5 villages du territoire de Kalemi, notamment Ongwa, Kiamusenji, Saliboko, Mulengi et Lukwangulo. L'objectif était celui de présenter les résultats de ces nouveaux mécanismes instaurés dans ces bourgades pour enfin dénicher les faiblesses et les menaces pour renforcer par la suite les stratégies, aussi recevoir les recommandations des autorités politico-administratives. Écoutez à ce sujet le coordonnateur provincial de la protection civile au Tanganyika, Maître Abdallah Hassani, au micro de James Katoto.
Les assises de ce jour consistaient à présenter les résultats jusqu'ici de ces mécanismes implémentés dans ces villages depuis décembre 2022. À ce jour, on était en train de présenter les types d'incidents que l'on a eu à recevoir pendant la période de décembre jusqu'à ce jour, les types de réponses que les autorités sont censées fournir et qu'ils fournissent au quotidien, dans les devoirs de redevabilité. Donc nous, à la protection civile, nous devrions présenter aux communautés ce que nous sommes en train de faire, de leurs problèmes qu'ils nous amènent en face des autorités. Nos attentes par rapport aux participants, c'est qu'ils puissent d'abord se mettre en tête que ce qu'ils nous envoient comme alerte, nous les transmettons aux fournisseurs de réponses qui sont des autorités. Aujourd'hui, nous les avons prouvé en le mettant ensemble dans ce beau cadre facilité par les partenaires OIM ici à l'hôtel Cham avec les autorités, où nous avons repris tout ce qu'ils nous ont partagé devant les autorités et les types de réponses qu'ils ont eu à recevoir, s'il y a eu des réponses ou pas en face des autorités. Et alors, nos attentes, c'est que cette population ici représentée de ces cinq villages vont aller répercuter les messages que le système d'alerte précoce fonctionne et les autorités sont bel et bien au courant.
Branchez-vous sur Ndenga News sur 104.0 MHz, la référence de l'information.
Cette fois-ci, nous prenons la direction à Kinshasa, où l'inspection générale des finances a rendu public ce jeudi un rapport accablant sur un manque d'encaissement pour la République démocratique du Congo. L'UGF et son équipe parlent de plus de 148 milliards de francs congolais que l'État serait en train de perdre pour des agents fictifs, soit d'autres qui ont deux numéros matricule et bien d'autres. Devant plusieurs cadres chargés la paye, dont les secteurs de l'enseignement, la police et l'armée congolaise, ainsi que les secrétaires généraux chargés de la paix dans l'administration publique. Gilles Alinguete parle avoir découvert 961 agents chargés du traitement de la paix impliqués dans les réseaux mafieux. L'inspecteur général des finances s'est promis des poursuites judiciaires aux personnes impliquées dans cette pratique. Écoutez Gilles Alinguete dans cet extrait choisi par Guillaume Goyamissi.
L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposaient de plus de deux numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire, ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste de CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine.
C'était l'inspecteur général des finances Gilles Alinguete au micro de notre permanent à Kinshasa, Guillaume Goyabissi. Et puis à Lomami, dans les territoires des Kabinda, une paysanne du nom de Vumbi Jackie, habitant la localité de Kibungi, Lukata, serait tuée la nuit du mercredi mercredi 26 au jeudi 27 avril par un élément de la police nationale, alors à mission d'arrestation. Selon plusieurs sources interrogées, la malheureuse femme s'est serrée impliquée à s'interposer à l'arrestation d'un homme supposé coupable en saisissant les policiers qui l'a arraché la vie. Le ministre provincial de l'Intérieur qui confirme cette fusillade indique tout de même que le calme est déjà revenu et que les enquêtes se poursuivaient pour dénicher l'auteur du meurtre qui s'est volatilisé dans la nature. On écoute Moulombo Mbwembwe, ministre provincial de l'Intérieur de l'Omami, au micro de Sylvain Fizemoukadi.
C'est en fait une équipe de policiers qui était partie en mission d'arrestation au groupement des Kibongé et Mokate. Et sur place là-bas, l'un d'entre eux a tiré sur la dame Jackie Fondi qui a rendu l'arme par la suite.
Présentement au village, comment se présente la situation sécuritaire?
Bon, nous avons, il y a des services de sécurité qui sont en train de mener des investigations sur place pour essayer un peu de retrouver les auteurs de ces cas de meurtre et qui seraient en train de s'évader. Alors, les services de sécurité sont à leur trousse pour retrouver toute l'équipe qui était partie. Sur quatre, il y a déjà deux qui sont aux arrêts et nous sommes à la recherche des deux autres pour essayer un peu d'établir les responsabilités. Jusqu'à la dernière minute, il y avait Tucal et les équipes qui sont là pour les investigations vont documenter tous les cas de déviation s'il y en a et l'occasion pour nous de prendre des dispositions pour contrecarrer les biais. Problème lié à la xénophobie sur terrain et les magistrats qui étaient saisis et faits ont déployé ces policiers-là pour essayer un peu de mettre la main sur les acteurs présumés de ces actes de xénophobie. Oui, le gouvernement provincial va s'occuper, va contribuer par rapport aux obsèques de la dame en attendant l'aboutissement des investigations qui sont en train d'être menées pour savoir qui a fait quoi, où, quand, comment et c'était dans quelles circonstances. La dépit au niveau de la ville de Cabinda.
Et puis la sortie officielle, la plateforme politique Igno Sacré de la Nation, c'est prévu ce samedi 29 avril au Stade des Martyrs et diversement commenté par la classe politique lomamienne. À l'UDPS, le peuple des Valentin Moubaké reste pessimiste quant à cette coalition qui, selon l'interfédéral John Mbuyi Kaba, est la pire que la République démocratique du Congo n'a jamais connue. Ses proches des Valentin Moubaké a, lors d'une interview accordé à notre reporter, fustiger aussi les rapprochements entre Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga et Augustin Matata Pognon, qu'il qualifie des instables. John Mbuyi Kaba est au micro de Sylvain Fizemoukadi.
De toute façon, Kabila, Fayoulou, Sanga, ce sont les soi-disant opposants. Nous pensons que nous, depuis notre création, nous avons toujours dit non à M. Kabila et à sa façon de gérer le pays. Fayoulou et Sesanga et les autres, ce sont les gens instables politiques qui peuvent nous abandonner au cours des chemins. C'est comme ça que nous avons l'impression de nous organiser d'abord et de compter principalement sur nous-mêmes, nous dépasse le peuple, avant d'envisager autre chose. Donc c'est ça notre vision.
Une probable coalition avec une autre formation politique ou d'autres leaders de l'opposition que vous qualifiez instable n'est pas envisagée?
Oui, à ce niveau-là, nous sommes d'accord parce qu'il y a certains leaders politiques que nous estimons sérieux. Avant tout cela, nous allons d'abord les étudier minutieusement.
Le peuple, celle aux élections de 2023, avec cette machine de l'Union sacrée. Tout juste après la signature de la charte de cette plateforme politique déjà. Le 29, ça sera la sortie officielle au stade de Marty. N'avez-vous pas peur d'être battu à plate couture aux élections de 2023 par le camp Félix Tshisekedi?
Nous avons trouvé cette histoire de la sortie officielle de l'Union sacrée comme un amateurisme politique sans précédent. Ils font une union autour d'un individu au lieu de le faire autour des idées. Alors, nous en avons déjà l'expérience.
Mais dans cet individu, il ressort également des idées.
Il n'y a aucune idée, parce que la charte, vous allez la lire, c'est autour du deuxième mandat d'un individu. Nous estimons que ça sera vraiment une plateforme la plus faible, la plus fragile qui puisse exister à travers l'histoire politique de notre pays.
Ndenga News, sur l'ensemble des territoires de la province du Tanganyika jusque dans la région du Grand Lac. La meilleure de l'information des proximités.
Enfin, au Nord Kivu, la classe présidentielle de cette province s'est réjouie de la démission du général Jeff Nyaga, commandant la force de l'East Africa Community dans la région, c'est vendredi 28 avril 2023. Ayant appris l'abandon de sa fonction à la tête des opérations est-africaine au Nord Kivu, ces derniers dressent un tableau sombre du bilan de ces Kenyans à la tête de l'East Africa Community. Germain Chikuru, notre permanent dans le Nord Kivu, nous fait le point.
En regardant bien ces images, la collaboration entre les commandants sortants de la force régionale de l'EAC, Jeff Nyaga, et les rebelles rwandais du M23 RDF, s'est laissée voir en public. D'abord à Kibumba, lors du fort retrait des M23 de leur position, ces deux partenaires se saluaient avec des accolades et toute gentillesse, suscitant aux spectateurs une réflexion et analyse quant à ceux. À Rumangabo, lors du second fort retrait, le général Jeff Nyaga ne s'est jamais présenté à la cérémonie, dont son absence a suscité une inquiétude de la part de la population et ses proches, mais pas du côté de l'ennemi. Dira son premier mandat, la troupe kenyane de l'EAC n'a jamais mené une opération offensive dans sa zone de responsabilité à Rutshuru et à Bunagana. En présence de la force régionale de l'EAC que dirigeait le général Jeff Nyaga, les rebelles rwandais du M23 RDF ont renforcé leurs positions et troupes et reprennent paisiblement leurs anciennes positions. Ces plusieurs aspects prouve l'inefficacité de Jeff Nyaga de sa démission justifiée sans raison en public. Note Auguste Kapila, bourgmestre de la commune de Goma et cadre de l'IDP au Nord Kivu.
Cette démission, ça nous a quand même erré. Parce que si vous vous rappelez que lorsque les chefs d'État de la région se sont retrouvés à Bujumbura, les chefs d'État étaient clairs avec le général Nyaga. Il lui a dit qu'ils ne sont pas venus chez nous pour aider les M23. Mais plutôt, ils sont venus chez nous pour travailler en collaboration parfaite avec nos forces armées, afin que la paix puisse revenir.
En remplacement du général Jeff Nyaga, le président du Kenya, William Ruto, vient de nommer général Alpha Ksar Muturi Kiugo pour diriger les opérations de la force régionale de l'EAC au Nord Kivu. Jeff Nyaga justifie sa démission par une menace aggravée pour sa sécurité et un plan systématique visant à contrecarrer les efforts de la force régionale et motif non fondé d'après les activistes des mouvements citoyens Nord Kivu.
Enfin, nous arrivons à la fin de cette édition du journal. Le plaisir est de se fixer rendez-vous à très bientôt.